Pierre-Étienne Joie.
Qui est responsable de la disparition de Crédit Suisse? Après un an et demi de travail et l'accès à un nombre inédit de documents et d'acteurs du domaine, la commission d'enquête du Parlement fédéral répond à cette question. Ses 14 membres, tous élus fédéraux, ont publié leur rapport ce matin et l'ont présenté en conférence de presse. Phileas Autier, vous l'avez consulté. Alors aux yeux de la commission, qui sont les coupables du naufrage de Crédit Suisse?
Avant tout, les dirigeants de Crédit Suisse, le conseil d'administration, la direction, aux yeux de la commission d'enquête parlementaire, ce sont eux les responsables de la perte de confiance des investisseurs et de la fuite en masse des capitaux de la banque. Mais l'essentiel du rapport porte sur les autorités suisses, le conseil fédéral notamment, et plus précisément les chefs du département du finance. Je dis les, car il y en a deux. D'abord l'UDC Ulli Maurer, puis dès janvier 2023, la PLR Karine Keller-Sutter. La commission pointe du doigt une mauvaise communication trop partielle à plusieurs reprises avec le reste du conseil fédéral. Peu d'informations transmises également lorsqu'Ulli Maurer a remis les clés de son département à Karine Keller-Sutter dans les derniers jours de 2022.
Oui, c'est donc la gestion de crise qui a posé problème.
Alors oui, mais pas seulement. La commission d'enquête parlementaire critique aussi l'encadrement de la banque, le Parlement et le conseil fédéral qui ont, dès 2015, freiné la réglementation bancaire. Et la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers, est aussi pointée du doigt, notamment pour un assouplissement sur les règles concernant les fonds propres de Crédit Suisse, ce qui aurait donné une fausse image de la santé financière de la banque.
Phileas Autier, en direct de Berne. Merci. La fin annoncée des négociations suisse-UE se précise. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera présente à Berne dans 2 heures pour une conférence de presse aux côtés de la présidente de la Confédération, Viola Amert. Le ministre suisse de la Justice, Beat Jans, a du reste répété récemment qu'il souhaitait que le dossier soit bouclé avant Noël. Parmi les enjeux, une clause de sauvegarde souhaitée par la Suisse en cas d'immigration trop importante à la suite de la libre circulation. L'administration fédérale sera mieux préparée aux situations de crise. Le Conseil fédéral a approuvé une ordonnance qui vise à créer les conditions nécessaires à une intervention rapide et systématique des états-majors de crise supra-départementaux. Les États-Unis se dirigent vers une possible paralysie de leur administration. La Chambre des représentants a rejeté hier le nouveau projet de budget soutenu par Donald Trump. Miruna Coca-Cosma.
Oui, échec retentissant pour le camp républicain majoritaire dans la Chambre des représentants, mais aussi pour Donald Trump et pour son allié milliardaire Elon Musk, qui ont torpillé le premier compromis que les républicains et les démocrates avaient conclu afin d'éviter un shutdown, comme on dit, impopulaire pendant les fêtes de Noël. Ça, c'était mercredi. Et puis, le nouveau texte de loi présenté hier, élaboré en urgence, n'a même pas obtenu la majorité simple, sans accord d'ici demain matin, 6h heure suisse. La paralysie des services publics fédéraux entraînerait notamment le chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires ou encore le gel de plusieurs aides sociales.
Mais comment s'explique ce blocage?
Eh bien, les démocrates ont voté en bloc contre ce texte qu'ils jugent pas sérieux et risible. Mais surtout, 38 républicains les ont rejoints. Le président de la Chambre, Mike Johnson, promet de trouver une solution, mais il est pris en étau entre les démocrates qui veulent revenir à l'accord initial et l'aile droite de son parti qui exige des coupes budgétaires drastiques. Un épisode qui donne des indications sur le futur mandat du président élu Donald Trump, peu soucieux des conventions, quitte à déclencher un certain chaos.
Merci Miruna. Emmanuel Macron doit conclure aujourd'hui sa visite à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, par une réunion de crise. Il doit dicter au gouvernement les actions utiles après avoir été confronté depuis la veille à la détresse d'habitants, partagée entre exaspération et accablement. Les forces russes ont frappé ce matin des cibles militaires en Ukraine avec des armes de longue portée et de haute précision. Une réponse à l'attaque ukrainienne sur la région russe de Rostov de cette semaine. Une attaque pour laquelle des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni ont été utilisés, selon le ministère russe de la Défense. Du ski alpin maintenant, le cirque blanc masculin fait halte dans les Dolomites avec 2 épreuves de vitesse à Alta Badia. Le départ du Super G masculin a été donné à 11h45 tout à l'heure. Alain Thévaux, vous êtes notre envoyé spécial dans la station italienne. Alors côté suisse, Marco Odermatt bien sûr est l'un des favoris.
Oui, Marco Odermatt qui va s'élancer tout à l'heure avec le Dossard 12 et à l'instant Mattia Cassel italien qui prend le meilleur temps de ce Super G. Cassé qui devance de 57 centièmes Stéphane Rogentin, le Grison et le Canadien Alexander Cameron Alexander Donc troisième et deuxième, et c'est vrai que ça a été une bonne manche de Roguentin qui était déjà à l'aise aux entraînements, aux avant-postes. Mais attention aux Italiens chez eux, il y aura également tout à l'heure Dominique Paris. Et vous l'avez dit, côté suisse, surtout Marco Dermat qui avait remporté le premier Super G de la saison à Beaver Creek. Il va s'élancer dans 2-3 minutes.
Alain Thévaud, en direct de Val-Gardena, merci. On vous retrouve dans le journal de 12h30 tout à l'heure et ce Super G est également à suivre en images sur RTS2. La légende américaine du ski, Lindsey Vonn, fait son grand retour en Coupe du Monde demain à Saint-Moritz à 40 ans et après quasiment 6 années d'absence. Ce comeback est très attendu par les fans comme par les plus sceptiques. 20 ans après sa première victoire en Coupe du Monde, elle va donc prendre le départ du premier Super G de sa nouvelle vie, aux côtés notamment des actuels Cador, des Sofia Goggia, Lara Gut-Berami et Cornelia Uther. Un mot des nouvelles du ciel. Cet après-midi, des éclaircies vont se développer sur le plateau et le temps deviendra assez ensoleillé en Valais, mais restera plus nuageux sur le Jura et le versant nord des Alpes, au maximum 4 degrés en plaine. Demain, des nuages encore avec des éclaircies, puis du soleil dans les préalpes et en Valais. De faibles chutes de neige sont attendues le matin en Ajoie et sur le Jura.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 14 au 20 décembre, la RTS et la chaîne du bonheur se mobilisent contre les violences faites aux enfants, en Suisse et dans le monde, avec l'opération Cœur à Cœur. Une campagne de dons dans plus de 7 villes romandes, des dizaines de bénévoles pour une action unique, 70 heures de direct sur les antennes de la RTS. Rejoignez-nous près de chez vous et sur toutes nos plateformes. Parce que face à la maltraitance infantile, donner est un jeu d'enfant. Faites un don sur coeur.rts.ch.
Les références, Julian Sykes.
À travers les répétitions, à travers le travail de construction d'une œuvre, ce qu'il faut essayer d'avoir, c'est que chacun se sente personnellement concerné par le point de vue du chef d'orchestre, par sa personnalité, par son influence et par le contact qu'il a avec lui.
La voix de Pierre Boulez et ses jeux de vagues de Claude Debussy pour vous accueillir aujourd'hui dans cette dernière émission de la semaine consacrée aux chefs d'orchestre français. On l'écoute dans La mer de Debussy, l'une des œuvres qu'il a le plus souvent dirigées en concert. Ici, sa première version au disque avec le New Philharmonia Orchestra de Londres. Bienvenue dans les références. Thank you.
Certainement, la mer est la partition qui est le plus étudiée par les étudiants en composition à Paris.
Pierre Boulez.
D'abord, Debussy est un modèle. C'était en tout cas quand je travaillais au conservatoire, c'était le grand modèle avec Ravel et le dernier modèle qu'on étudiait. Et il n'y avait pas grand-chose après Debussy et Ravel. Et donc, pour nous, c'était des pièces qui étaient très importantes. Du reste, Messiaen lui-même aimait beaucoup cette pièce. Et je me souviens très bien que dans ses classes d'analyse, il la tenait pour une des pièces importantes à analyser et à étudier pour ses élèves. Et il faisait lui-même une analyse très approfondie. Donc pour nous, Français en tout cas, c'est vraiment la pièce inévitable, je dirais. Et même elle est tellement inévitable qu'elle est devenue vraiment quelque chose de trivial, on dirait. Parce que tout le monde se focalise sur cette pièce. Et à vrai dire, c'est la pièce la plus importante pour orchestre que Debussy ait jamais écrite. Si on compare avec les autres œuvres, les nocturnes sont jouées plus rarement parce qu'il y a le chœur de femme dans Sirène. Et donc ce n'est pas pratique. Ou alors on joue les deux premiers nocturnes, ce qui est très incomplet par rapport à l'idée originale. Et le jeu n'a jamais été une pièce très populaire, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'elle est d'une très grande qualité, mais elle n'a pas l'impact sur le public que la mer. Probablement parce que la mer termine en force avec gloire, tandis que jeu termine sur une sorte de pirouette très élégante. Mais enfin, c'est une pirouette et donc ça laisse un peu les gens sur leur faim. Et en tout cas, n'étant pas sûr que ça soit la fin même, quelquefois. Donc, la mer est vraiment quelque chose qui est constamment joué. Et tous les chefs d'orchestre français, tous les orchestres français ont ça à leur répertoire. C'est ce qu'on appelle le grand cheval de bataille avec la symphonie fantastique. Ce sont les deux extrêmes. Moi, ce qui m'intéresse dans la mer, c'est justement la place que cette œuvre tient dans la trajectoire de Debussy. C'est une œuvre très importante parce que c'est là où il approfondit sa vision d'abord de l'orchestre, tout simplement. C'est pour la première fois, et spécialement dans le second mouvement, un orchestre vraiment extrêmement travaillé, extrêmement raffiné, une autre sonorité que la sonorité qu'on avait entendue auparavant. Cela dérive de quoi ? On ne peut pas dire exactement, il n'y a pas de modèle ni d'antécédent. Mais c'est très loin, par exemple, des préoccupations de la musique allemande de l'époque, en particulier de Strauss et de Mahler, puisque c'était les deux grands compositeurs qui étaient à peu près les contemporains de Debussy. L'orchestre de Strauss ou de Mahler sont des orchestres aussi très raffinés, très bien pensés, quelquefois très violents, très virulents, très lourds même. Mais ce n'est pas du tout la transparence de Debussy et l'alliage de timbres qu'on trouve dans Debussy. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que, dans une toute autre manière que Mahler, il a rénové complètement la forme symphonique. Il n'a jamais voulu écrire de symphonie, vraiment. Je crois qu'il ressentait beaucoup l'inanité d'écrire une symphonie après toutes les symphonies de Beethoven, de Brahms, c'est-à-dire de s'insérer dans une tradition germanique qui ne lui convenait pas, qui ne convenait pas au caractère de la musique, qui ne convenait pas, disons, aux idées musicales et à la sensibilité musicale qu'il voulait exprimer. Et donc, ces trois mouvements de la mer n'ont rien d'une symphonie au sens littéral du terme, quoique on puisse dire que Jeu de vague se rapproche d'un scherzo.
c'est la chose qui est la plus proche d'une symphonie habituelle, c'est cette forme du scherzo avec du reste le rythme en 3-8 ou en 3-4, c'est-à-dire le rythme ternaire qui est le rythme typique du scherzo. Mais le final, bien sûr, de la mer, le dialogue du vent et de la mer, est aussi une sorte de finale symphonique parce qu'il est très agité, très contrasté, mouvementé et se termine en apothéose comme vraiment les finales de symphonie doivent se terminer. Donc, je crois que là, en effet, il y a des affinités avec la symphonie classique, mais malgré tout, le schéma n'est pas du tout le même. Et en tout cas, le développement des idées n'a rien à voir et la qualité des idées même n'a rien à voir. Quand on voit l'introduction du dernier mouvement, cette introduction est vraiment remarquable parce qu'elle apporte progressivement des éléments thématiques qui vont se développer, mais qui se développent d'une façon tellement différente du développement, je dirais, académique classique. Donc pour moi, c'est une œuvre qui marque vraiment quelque chose de très important dans l'évolution de Debussy et qui va se manifester plus tard dans une œuvre comme Jeu qui est encore beaucoup plus sophistiquée, si on peut dire, que La Mer. La Mer a encore des caractéristiques, disons, du premier Debussy, très nettement. Jeu ira beaucoup plus loin dans cette atmosphère.
La fin spectaculaire de La Mer de Claude Debussy, dialogue du vent et de la mer par Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. Avec son oreille infaillible et avec sa science des couleurs, Boulez est rapidement devenu une référence pour le répertoire français auprès des orchestres internationaux. On l'avait même estampillé chef français, forcément. Il dirigeait Claude Debussy, mais aussi Ravel et Olivier Messiaen, qui fut son professeur de composition à Paris. On va écouter l'un des poèmes pour Mi de Messiaen. Ce sont des très belles mélodies. Dans un enregistrement par la soprano française Françoise Paulet, Boulez et l'orchestre de Cleveland, voici le poème intitulé « Ta voix », tiré du deuxième livre de ces mélodies. La voix de Françoise Paulet dans la musique d'Olivier Messiaen, l'une des mélodies tirées des poèmes pour Mi. Elle était accompagnée par Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. On va rester avec l'orchestre de Cleveland et y ajouter un soliste, Christian Zimmermann. Boulez a enregistré les deux concertos de Ravel avec ce merveilleux pianiste d'origine polonaise, qui vit d'ailleurs en Suisse, à Bâle, depuis de longues années. Ils ont signé parmi les meilleures versions récentes de ces deux concertos, pour preuve le presto final du concerto en sol qui est tout simplement époustouflant. Le final du concerto en sol de Ravel par Christian Zimmermann, Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. On poursuit cette exploration de la discographie de Boulez avec une grande cantatrice qu'il a souvent accompagnée en concert et au disque, Jessie Norman. Alors, on n'imagine pas a priori ces deux musiciens ensemble, mais le courant passait bien entre eux. On leur doit un très bel enregistrement de l'opéra Le Château de Barbe Bleue de Bartok et aussi d'œuvres de la seconde école de Vienne. Voici les trois premières mélodies tirées des sept mélodies de jeunesse d'Alban Berg. Le timbre de Jesse Norman est pour le moins capiteux, ce qui peut surprendre de prime abord quand on a à l'oreille une Barbara Bonnet pour cette musique, mais je trouve ça tout à fait envoûtant.
Und schaut
La voix de Jesse Norman dans trois mélodies tirées des Sieben früher Lieder d'Alban Berg. À l'instant, dit Nachtigall, le rossignol. Elle était accompagnée par Pierre Boulez et l'Orchestre symphonique de Londres. À propos de rossignol, Boulez avait entendu un jour à la radio une retransmission d'une œuvre de Stravinsky, le poème symphonique Le chant du rossignol, sous la direction d'Ernest Ansermet. Et à la suite de cette écoute, il s'est mis à diriger l'œuvre, qu'il a enregistrée à deux reprises. Alors on va écouter son premier enregistrement du début des années 80 avec l'Orchestre National de France, le début de cette pièce qui est extrêmement colorée et chatoyante avec une clarté absolument sidérante.
Thank you.
Des extraits du poème symphonique « Le chant du rossignol » de Stravinsky dans l'interprétation vive et colorée par Pierre Boulez et l'Orchestre National de France. On vient d'entendre une flûte au milieu de l'orchestration chargée et luxuriante de Stravinsky et c'est à nouveau cet instrument qui est au cœur d'une courte pièce de Pierre Boulez, « Mémorial » pour flûte et 8 instruments. On y entend le raffinement de l'écriture de Boulez et un certain mystère. Alors même si la pièce est un peu atonale, instable harmoniquement, on est ici dans la continuité de Debussy, Ravel et Messiaen.
Thank you.
Une pièce pour flûte et 8 instruments de Pierre Boulez, Mémorial, sous-titré Explosante fixe originelle, joué par la flûtiste Sophie Cherrier et des solistes de l'ensemble intercontemporain sous la direction de Pierre Boulez. Boulez était un musicien diversement apprécié dans le monde de la musique. Il avait une forte personnalité et il n'a pas fait l'unanimité. Mais il traitait ses interlocuteurs avec respect, même s'il était en profond désaccord avec eux. Boulez nous a quittés en janvier 2016, à l'âge de 90 ans. Il laisse une kyrielle d'enregistrements, parmi lesquels encore des disques consacrés à Béla Bartók. On va se quitter avec le premier mouvement du Divertimento pour cordes de Bartók. Pierre Boulez dirige ici les membres de l'Orchestre symphonique de Chicago. On se quitte sur ce premier mouvement du Divertimento pour cordes de Béla Bartók, une version par Pierre Boulez et l'Orchestre symphonique de Chicago. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette série d'émissions sur Pierre Boulez, chef d'orchestre. Je remercie Bastien Meucli pour son assistance à la réalisation. Et je vous remercie aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait en musique. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 13h, tout de suite.